Alors, comme d'habitude, maintenant on passe à la critique de la théorie. Bien sûr, on peut toujours imposer, sinon proposer, une structure en arbre, quels que soient les objets que l'on compare. Mais y a-t-il pour autant parenté parce que vous avez organisé une structure en arbre? Alors, je cite De Moule qui, pour expliquer cela, prend un exemple lumineux. Donc, je reprends. Faire une structure en arbre, c'est bien, mais ça peut ne pas être pertinent, et voilà ce qu'il explique. Je peux, en fonction d'une grille descriptive préétablie, comparer une pomme avec un chapeau et une automobile. Il est probable que l'arbre que j'obtiendrai, au moyen d'une classification automatique, sophistiquée ou non, me produira un premier embranchement séparant l'automobile d'une part, la pomme et le chapeau de l'autre, lesquels ensuite donneront lieu chacun à une branche particulière. Rien ne permet pourtant d'en déduire que, au fil du temps, un proto-objet s'est séparé à un certain moment en deux familles, celle de l'automobile d'une part et celle du proto-pomme-chapeau de l'autre, laquelle se scindera ensuite en pomme d'un côté et en chapeau de l'autre. Il en va de même des langues. Un arbre phylogénétique mesure des distances entre des langues en fonction des critères retenus. Rien n'indique qu'il exprime strictement une évolution génétique générale. Il suffit de choisir un autre modèle que celui en arbre. Voilà, je crois que c'est clair. On peut mettre tout ce qu'on veut en arbre, mais ça n'est pas toujours pertinent. Ça peut être un jeu amusant, hein, mais c'est tout. Voilà le premier problème lié à la pensée en arbre. La deuxième critique de Moule est la suivante. C'est un problème de validation. Les différents arbres produits en nombre croissant au fil des, on dira, des trois dernières décennies, puisque les linguistes partout dans le monde continuent à chercher. Vous savez, c'est la quête du Graal, cette langue originelle. Ça relève du mythe, la quête d'un archétype. Je me demande même si... il faudrait que savoir si Jung a pas parlé de cela quelque part dans son œuvre. En tout cas, ces arbres qui se multiplient depuis trois décennies, se ressemblent à peu près tous, de près ou de loin, en ce qui concerne les grands embranchements. Donc, dans les grands embranchements, il y a validation possible. Mais dans le détail, ensuite, on découvre des proximités de langue totalement inexplicables. Que ce soit des proximités ou non dans l'espace, ou dans l'histoire de ces langues. Et enfin, le gros problème qui ne permet pas de valider cette théorie, c'est que aucun de ces embranchements n'est datable. Quand on reconstitue une histoire, on parle de tournant, on parle d'événement, on parle de mutation, que l'on date à coup de millénaires ou de siècles ou d'ères, mais là, c'est proprement infaisable. Alors, comme Jean-Paul de Moule a une démarche à la fois d'archéologue et de scientifique, il veut prendre le problème sous toutes ses formes. Et il en vient ensuite à la question de la méthodologie. Alors, la méthodologie étant appliquée au processus comparatif. Je compare mes langues anciennes pour en tirer un arbre ou une règle générale ou une langue universelle. Alors, nous allons revenir à ce qui a été évoqué tout à l'heure, la paléontologie linguistique. Alors, je reprends la définition de ce titre pompeux. C'est le fait d'établir la description d'une civilisation disparue. Donc, c'est établir la description d'une civilisation disparu à partir de son vocabulaire. Ce qui peut paraître intéressant, parce que les vocabulaires reflètent vos mœurs, vos coutumes, les outils, ce qui existe, vos pensées, etc. Donc, le fait d'établir la description d'une civilisation disparue à partir de son vocabulaire. Mais est-ce possible ? Dans la mesure où, comme on l'a vu plus haut, on a une seule racine, le mot enflé, hein, commune aux 14 familles indo-européennes identifiées. Alors, encore très récemment, en 2006, vous voyez, il y a moins de 10 ans, deux chercheurs... Il n'y a pas beaucoup de Français dans tout cela. Hein. Les Français, ils sont là pour contester. Voilà. Douglas Adams. Et James Mallory. Voilà. Ces deux chercheurs ont inventorié les aspects probables de la réalité indo-européenne à travers le vocabulaire des familles de langues. Donc, ces deux chercheurs ont entrepris d'inventorier les différents aspects de la réalité, de la civilisation, de la vie indo-européenne primitive, à travers le vocabulaire des familles de langues évoquées plus haut. Quand on parle des différents aspects, c'est la faune, la flore, l'anatomie, la nourriture, les activités, les émotions, la société, tout. Faune, flore, anatomie, société, nourriture, émotion, activité, etc. Le problème, c'est qu'on trouvera toujours un terme indo-européen présent dans au moins une langue pour décrire une de ces réalités. Soit un nom de fleur, soit un nom d'outil, soit un nom de mets qui était consommé. Voilà. Comme d'ailleurs dans n'importe quelle autre famille de langues sur la planète. Donc, je vous l'explique que ça ne peut pas être pertinent non plus. Ça n'est pas en prenant un mot dans la première famille, puis un autre dans une autre, et un troisième dans une autre des 14 familles, qu'on va recenser la vie idéale de ces Indo-Européens. Alors, voilà, là aussi, je juge bon de vous lire un passage qui montre que là encore, une confusion est faite entre une spécificité indo-européenne et tout simplement une spécificité humaine. Les impasses de la paléontologie linguistique ont été signalées depuis longtemps et continuent à l'être. L'archéologue Stuart Pigott rappelait par exemple en 1950, compte tenu des mots appartenant ou non au vocabulaire commun, il le cite, « à vouloir prendre les preuves linguistiques au pied de la lettre, on en vient à conclure que les premiers locuteurs indo-européens connaissaient le beurre, mais pas le lait, la neige et les pieds, mais pas la pluie ni les mains. » Fin de citation. On connaît aussi la démonstration par l'absurde d'Ernest Pulgram, à la même époque, qui, sur la foi des mots communs aux langues romanes, proposait de reconstruire une culture proto-romane ou latine, dominée par des rois, des prêtres et des évêques, où l'on fumait du tabac, buvait de la bière et du café, où l'on se faisait la guerre, un mot venu du francique, sur des chevaux, un mot venu du balatin caballus qui remplaça le classique écus. En réalité, on le sait, tous ces mots et ce qu'ils désignaient sont apparus dans des langues romanes postérieurement à l'époque romaine. Mais encore faut-il disposer d'évidences textuelles. Voilà. Ces démonstrations par l'absurde n'enlèvent rien à la ténacité des chercheurs, mais on tombe une fois de plus dans une impasse. Mais vous savez que les chercheurs sont des gens qui s'accrochent, et il y a aussi la démonstration par l'absence. Il fallait y penser. Alors, Demoux le dit même que ces paléontologues linguistes font preuve d'une opiniâtreté sidérante, puisqu'ils ont réponse à tout. Dans les années 1900, on avançait qu'il n'y avait pas d'ours dans les steppes. Or, on trouve le mot « ours » dans le vocabulaire indo-européen commun. Conclusion, c'est donc qu'il y a dû y avoir des ours, puisque le mot existait. C'est un peu court, hein, vous êtes d'accord. On expliquait aussi plusieurs absences par des tabous. La racine commune sale, le sel, n'est pas attestée chez les Indo-Européens d'Asie, parce que c'était un choix alimentaire. L'absence de mots pour des poissons, toujours dans l'Asie et la Russie actuelle, il n'y a pas de mots pour les poissons. Or, on sait que les fleuves d'Ukraine regorgeaient de poissons, mais ils l'expliquent par le tabou alimentaire. Voilà. Donc, vous voyez, les explications, ils ne sont jamais à court d'explications. Et cette linguistique de l'absence a perduré. Par exemple, dans toutes les racines dites indo-européennes qu'on a retrouvées, il n'y a aucun mot pour la maladie. Conclusion, les indo-européens étaient en parfaite santé. Et je cite la conclusion de De Moule. On passe insensiblement de l'inventaire lexical à l'inventaire romanesque, plausible certes, mais en aucun cas vérifiable. Ce sont les représentations des chercheurs qui sont premières, et les réalités linguistiques devront s'y plier. Voilà. J'ai une théorie, elle est imaginaire, mais je fais rentrer la réalité dans ma théorie. Voilà. Alors, je vais en arriver maintenant à la conclusion, mais auparavant, je voudrais que nous lisions ensemble, maintenant que nous avons démonté les 12 thèses, que nous voyons comment De Moule propose sa vision alternative. Je vous ai donné le papier à remplir. Sa vision alternative, qu'il appelle les 12 antithèses indo-européennes. 1. Les langues indo-européennes parlées il y a 3 millénaires dans une grande partie de l'Eurasie occidentale et actuellement dans une grande partie du monde forment une famille de langues cohérentes comprenant 12 principales sous-familles, dont celles des langues romanes incluant le français. Les différents modèles arborescents qui, pour certains linguistes, rendent compte de cette famille ne sont pas les seuls modèles logiques possibles pour décrire les relations entre ces langues. Rendons hommage à sa formulation qui dit « ne sont pas les seuls possibles ». Il ne dit pas « est une absurdité totale ». 2. La recherche constante depuis 3 siècles d'une parenté entre ces langues et de leur lieu de formation supposé se présente aussi comme celle de la construction d'un mythe d'origine qui offrirait aux peuples européens une identité différente de celle que leur confère leur mythe d'origine officielle, celui de la Bible, mythe dont ils sont par conséquent redevables aux Juifs, qu'ils ont constamment persécuté depuis plusieurs siècles dans une situation schizophrénique. 3. La reconstruction de la langue originelle et de l'arbre des langues indo-européennes, Stammbaum, malgré 2 siècles de recherche linguistique et l'appui des méthodes les plus modernes de la linguistique quantitative, ne fait toujours pas l'objet d'un consensus. 4. Il n'existe pas non plus de consensus quant au statut de la langue reconstruite, simple abstraction et système de correspondance pour les uns, ou bien langue réellement parlée par un peuple originel, pour Volk, pour les autres, un double langage souvent entretenu dans les publications des indo-européanistes. 5. L'idée d'un foyer originel unique et localisé où vivait le peuple originel n'est que l'une des hypothèses possibles pour rendre compte des apparentements entre les langues. 6. L'utilisation de la paléontologie linguistique débouche sur de nombreuses contradictions et apories et sur des raisonnements circulaires. Une aporie, c'est un raisonnement qui aboutit à une impasse. 7. Le modèle de la diffusion de cultures archéologiques correspondant à autant de peuples est à la fois naturaliste et directement inspiré de celui des États-nations du XIXe siècle. Il ne correspond pas à de nombreuses situations que nous offre, par exemple, aussi bien l'ethnologie des autres continents que l'histoire et l'archéologie des populations proto-historiques du haut Moyen-Âge européen. 8. Sans revenir sur les détournements et errements commis par l'anthropologie physique européenne, y compris jusque dans les années 1980, les perspectives prometteuses de la chimie osseuse et des analyses d'ADN restent encore embryonnaires pour retracer les migrations préhistoriques. C'est vrai que les progrès de l'ADN dont nos enfants bénéficieront vont peut-être révéler des vérités totalement inattendues. 9. S'il existe des ressemblances et correspondances indéniables entre un certain nombre de mythologies de l'Eurasie, il est très réducteur d'en rendre compte dans les termes d'une mythologie indo-européenne originelle homogène. C'est moi qui ai souligné en pointillé. Il n'y a pas de correspondance biunivoque entre langue et mythologie. Et cela vaut tout autant pour l'analyse des autres textes antiques qui sont parvenus jusqu'à nous. 10. Il n'existe aucun consensus sur le foyer originel supposé du peuple originel, même si les hypothèses antagonistes les plus médiatisées actuellement sont les steppes au nord de la mer Noire d'une part et l'Anatolie d'autre part. Chacune de ces deux principales thèses a de bons arguments contre l'autre. De même, il n'existe aucun consensus, mais de nombreuses hypothèses contradictoires sur les trajets qu'auraient suivis chacun des peuples indo-européens jusqu'à leur localisation historique. 11. L'exploitation passée ou actuelle par des mouvements nationalistes et extrémistes du modèle indo-européen canonique sous la forme d'un peuple originel parti d'un foyer originel est le miroir grossissant des représentations idéologiques sous-tendu par ce modèle. Alors, il faut passer à la feuille 3 pour l'antithèse 12. Si nul ne songe à remettre en cause les ressemblances effectives entre les langues dites indo-européennes, le modèle arborescent centrifuge sous ses formes actuelles ne peut être considéré comme validé de par ses nombreuses contradictions. Les détournements passés ou présents de ce modèle incitent en outre à la plus grande rigueur. C'est donc vers des modèles beaucoup plus complexes et pluridisciplinaires, concernant des phénomènes historiques étalés sur des millénaires, que l'on devrait raisonnablement se tourner pour explorer la multiplicité des problèmes connus sur le nom de « questions » indo-européenne.
Si dans toutes ces thèses, on se posait des questions sur la représentation, comme par exemple la tour de Babel et autres, qu'est-ce que ça ferait ? Parce que c'est un peu compliqué.
Ah non, mais c'est compliqué.
Voilà. La tour de Babel, là-dedans.
C'est un des mythes bibliques. Tous les mythes bibliques renvoient, qu'on soit chrétien ou pas, à mon sens, renvoie à un fondement de l'humanité. Voilà. Tous. Bon, la tour de Babel, c'est peut-être l'ancêtre des pro-indo-européanistes. Le désir d'une langue première qui serait la langue du paradis, mais c'est encore une fois, c'est Adam et Ève qui ont tout foutu en l'air. Hein. Voilà. Et Babel, Babil, Babillé, Babel, c'est le langage. Hein. Babel,
c'est complètement le langage.
Alors, à mes yeux, c'est un mythe qui nous renvoie à la question du langage. Pourquoi parle-t-on ? Pourquoi parle-t-on ? Enfin, merci qu'on puisse parler, mais pourquoi et comment ? Enfin, ça renvoie à qu'est-ce qu'on fait sur Terre ? Voilà, c'est un des mythes de l'explication du monde. Et c'est là où j'envie l'érudition des Dumézil et autres, parce que je pense que la connaissance des mythes, même si après on débouche sur des théories qui nous paraissent aberrantes ou amusantes ou absurdes, ça enrichit malgré tout notre philosophie de la vie. Et voilà quoi. Je ne peux pas en dire plus. Très modestement, il faut reprendre la Bible, Jean-Marc.
Donc, voilà, c'est ça, c'était ma question. Voilà.
Et s'adresser à des exégètes, à des, Et alors là, moi, je suis pas la meilleure placée. Du tout.
Et est-ce qu'il y a eu une réponse des linguistes à ce bouquin? J'ai rien vu, mais il n'y a pas.
Non, c'est peut-être trop frais.
Oui.
C'est deux moules trop frais. je ne sais pas.
Non, j'ai pas vu.
Mais tu es le mieux placé, toi, qui harcèle France Culture pour nous dire quel sera le premier. Mais bon, c'est un livre passionnant, mais qui est un peu austère quand même, même s'il y a de l'humour dans tous les chapitres. Ah, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, voilà. Ce qui m'a plu dans ce livre de Demoule, c'est sa propre rigueur scientifique. Vous le voyez vous-même dans sa façon de contester les théories qui lui ont permis à lui, enfin, pour contester, vous savez ce que c'est, pour renier ses parents, il a d'abord fallu en avoir et avoir été éduqué par eux. Enfin, les renier, faire sa crise d'adolescence, je veux dire. Hein, voilà, dire bon, ben, vous m'avez appris ça, mais moi je m'en sépare. Donc il mène son propos avec tant de rigueur que je ne vois pas comment on pourrait contester son travail. Parce qu'il est historien, il est archéologue, il doit être aussi philologue. Il a plus d'une corde à son arc.
Voilà. Parce qu'une remarque, c'est qu'il se présente quand même comme archéologue et. J'ai pas lu le bouquin, je vais m'y lancer. Mais il parle presque pas d'archéologie là-dedans.
Non, non.
C'est ça qui est curieux. Quoi.
Non, non. Son propos était d'invalider toutes les thèses antérieures. La bibliographie à la fin du livre fait 15 pages. Avec des noms allemands, anglais, américains, canadiens.
Mais ça suppose qu'il y ait de l'écriture et il y a beaucoup d'ethnies sans écriture.
Eh oui. Voilà. Alors justement, c'est Benveniste qui le premier a retrouvé la raison en disant que l'écriture était trop récente par rapport aux périodes qu'on envisageait. Or, une société ne recourt à l'écriture qu'avec l'apparition des villes, des états, hein, et les langues grecques, latines, indo-iraniennes sont celles des cités, des royaumes, des empires, et sont donc très éloignées des sociétés proto-historiques qui auraient parlé l'indo-européen. Voilà, c'est Benveniste le premier qui a dit « mais on ne peut pas fonder quelque chose d'historique et de sérieusement scientifique en remontant si loin en prenant comme pierre de touche l'écriture. Hein? Voilà. Alors, des éléments de conclusion qui apportent des alternatives maintenant. Très rapidement. Voilà, restons positifs. Sans aucun doute, hein, les études érudites qui ont été nécessaires à ces quêtes ont apporté des informations passionnantes sur l'histoire et la culture de ces sociétés. Et Demoule ajoute avec une imparable logique, je le cite, en rendre compte dans les termes d'un petit peuple de la steppe originelle qui, par son génie propre et son armement performant, aurait imposé sa langue et sa culture à toutes les populations de ces immenses espaces serait certes l'explication la plus facile à comprendre. Mais n'est-elle pas la plus pauvre et la plus réductrice, même si elle possède une longue histoire idéologique? Voilà, ce qu'il nous dit en l'état, hein, c'est que ramener tout à un petit peuple originel, c'est à la fois simpliste, réducteur, et ça enlève la richesse de ce qui a plus sûrement résulté d'un réseau et de brassage, même si tout cela est indatable. Pour finir, il revient à celui qui très certainement lui a servi de maître et de référence, il revient à Saussure. Alors revenons-y aussi un instant. Saussure a considéré, dès qu'il a entrepris des études de linguistique, il a considéré la langue comme un objet matériel qui obéirait aux mêmes règles sociales que les autres objets matériels, manipulé par une société donnée. Donc je reprends. Dès le début de ses recherches, en tant que linguiste, Saussure a considéré la langue comme un objet matériel au même titre et obéissant aux mêmes règles que tous les objets produits, manipulés par une société donnée. Et pour cela, il se fonde sur quelque chose qui nous crève les yeux, c'est le mot « idiome ». Idiome, c'est une langue, mais c'est la même racine que « idiotisme », qui, vous le savez, n'a rien à voir avec l'idiotie. L'idiotisme, c'est quelque chose qui est propre à un fonctionnement social ou linguistique. Et l'idiome, c'est quelque chose qui est puissamment singulier au peuple qui l'utilise. Voilà, il part de là. Et voilà ce qu'il écrit, Saussure. La langue est une habitude, une coutume. Vous voyez, hein, idios, ce qui est propre à une société, à des usagers d'une langue. Voilà. C'est une habitude, une coutume, analogue à celle du costume ou de l'armement. Voilà. Donc, la langue est une habitude, une coutume, analogue à celle du costume ou de l'armement. Il continue en ces termes. Le terme « idiome » désigne fort justement la langue comme reflétant les traits propres d'une communauté. Donc le terme « idiome » désigne fort justement la langue comme reflétant les traits propres d'une communauté. Et il rappelle qu'en grec, idioma, ça veut dire coutume spéciale au départ. Et ça n'est qu'ensuite que ça a désigné une langue, coutume spéciale. Et Saussure explique ensuite l'évolution d'une langue. Il dit qu'elle résulte de deux forces opposées et simultanées comme n'importe quel objet. Donc, deux forces opposées. Premièrement, l'esprit de clocher, c'est ma langue. Il y aura tel et tel particularisme. Il y aura telle expression dialectale. Il y aura mes manies, mon accent, ma musique, etc. Donc, esprit de clocher. Et parallèlement, simultanément et à l'opposé, il y aura le besoin de communiquer avec les autres, qui là relève de tout sauf l'esprit de clocher, c'est-à-dire de quelque chose d'universel. Enfin, de plus général en tout cas. Donc, l'évolution d'une langue résulte de deux forces opposées, le particularisme et le besoin de communiquer entre les hommes. Et si vous réfléchissez, les objets, ils sont tous singuliers, vous ne pouvez pas confondre un livre et un feutre, mais en même temps, ils ont un usage pour tous, et il peut y avoir un milliard d'autres livres et un milliard d'autres objets, toujours distincts, mais utilisables de manière plus générale. Donc, au fur et à mesure où la linguistique générale s'est éloignée de la grammaire comparée des langues indo-européennes, elle a gagné son autonomie et elle a débouché sur la sociolinguistique, qui, de nos jours, est une discipline extraordinairement vivante, pertinente, qui montre comment la langue est inséparable de la société, alors que la grammaire comparée, qui continue à exister, s'est immobilisée avec ses outils et ses postulats et n'avance plus. Alors, en guise de conclusion, nous allons précisément voir les quatre points que Jean-Paul Demoule propose comme apport de la sociolinguistique. Premièrement, les changements linguistiques peuvent être dus à de nombreux facteurs souvent combinés, dont les migrations et les conquêtes militaires ne sont que deux des causes possibles, jamais les seules et pas les plus fréquentes. Les cultures archéologiques, comme les ethnies, sont des entités instables, perméables et provisoires, en constante recomposition, et qui ne possèdent donc pas une essence intemporelle que l'on pourrait suivre au fil des siècles, encore moins des millénaires. Troisièmement, il n'y a pas nécessairement coïncidence entre langue et culture matérielle, ou entre langue et ethnie. Ça, c'est intéressant. Quatrièmement, les langues ne sont pas des entités biologiques homogènes, autonomes et bien délimitées, qui se reproduiraient par parthénogénèse ou sissiparité. Ce sont au contraire des objets matériels et sociaux, créés par un groupe humain à des fins de communication, soumis à une grande variabilité interne et en constante évolution. Voilà.
Ça veut dire quoi, sissiparité ?
Alors, c'est les cellules qui se... Une cellule qui se sépare en deux. Ça, c'est en biologie.
En biologie, oui. C'est un mode de reproduction.
Alors, il reste un petit quart d'heure, mais je ne vais pas commencer une leçon maintenant. Je vais donc en profiter pour vous distribuer donc cette évaluation. Ça n'est pas un devoir, hein. Vous le faites si vous l'entendez, mais moi, ça m'aidera à... Ça m'aidera à faire le point sur les cours. Alors, le cours de la prochaine fois sera beaucoup, comment dirais-je, beaucoup plus souriant. On abordera l'histoire de l'orthographe et de l'étymologie, où il y a, enfin, on l'effleurera, mais vous verrez que ce n'est pas triste. Et puis, on abordera les étymologies amusantes ou insolites. Et puis, je vous donnerai la bibliographie. Si vous voulez continuer un travail, des recherches, des lectures. J'ai du mal. Écoutez, il y en a deux.
Oui, je vais être ici pour la prochaine.
Étant donné que je ne l'entendais pas.
Non, c'est une autre.
C'est bon, il s'est rien.
Si j'avais su.
Si je voulais donner.
Oui.
Alors, ben, tant que j'y suis, je vous distribue un document pour la prochaine fois. Et vous verrez qu'il n'y a pas que les Indo-Européens qui posent problème. L'orthographe française et ses tenants conservateurs. Voilà, ça c'est pour la prochaine fois.
Merci. Nous avons un peu de temps.
Voilà, bah écoutez, je propose de vous donner, de vous offrir magnanimement les 10 minutes qui restent pour aller cueillir des pâquerettes ou faire des vers en mâchonnant des violettes comme le sous-préfet au champ. C'est dans les lettres de mon moulin, je pense que monsieur le sous-préfet, vous êtes des vers. Voilà.